une interface d'adaptation entre les deux, entre ce monde interne et ce monde externe. Donc, si vous passez d'un circuit à un autre, vous passerez toute l'adaptation pour sortir, puis toute l'adaptation pour rentrer. Donc, vous serez archi pénalisé. Donc, c'est pour ça qu'on a intérêt à amener le maximum de choses là-dedans. Plus vous amenez des choses là-dedans, plus vous les amenez dans le même monde rapide, et plus vous pouvez avoir des connexions importantes, vous pouvez, entre deux blocs à l'intérieur, avoir des centaines de fils d'interconnexion. Alors que si vous passez par l'extérieur, vous serez limité par le nombre de broches. Hein? Et le nombre de broches, on peut arriver à en mettre quelques centaines, mais pour tout le circuit. Donc vous voyez, il y a ces deux mondes. Il y a vraiment deux mondes entre l'intérieur et l'extérieur. OK? Et donc on arrive à des circuits géants. Et l'idée, c'est de dire, votre smartphone, ça sera un circuit intégré. On mettra tout dedans. Hein? On mettra le GPS, on mettra la réception, on mettra les récepteurs, on mettra les... Alors, l'afficheur, on ne peut pas le mettre, mais on mettra tout ce qu'il faut pour piloter l'afficheur. Et donc, on aura... Plus on fait ça, moins on a de connexion avec l'extérieur pour une certaine complexité, moins on a de complications que de relier plusieurs circuits, et moins on a de... Et plus ça va vite, puisque l'interconnexion reste dans le monde interne. Et même ce monde interne maintenant devient tellement grand qu'il lui-même va devoir être divisé en des zones qui ont une certaine vitesse et qui interconnectent à une vitesse plus faible. Hein, un petit peu comme les pays dans un continent. Hein, oui. Et donc on a des échelles de zones, pour l'instant qu'on appellerait isochrones, c'est-à-dire qui travaillent avec le même système d'horlogerie, et interconnectées elles-mêmes. Et actuellement se développent des interconnexions asynchrones de zones synchrones. Et on introduit ce qu'on a une panne, un risque de panne énorme qu'on appelle la métastabilité. Et ce risque-là, le jour où ça pètera, je vous dis que ça fera du bruit. Et actuellement, c'est le fond de la balançoire. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, on a trouvé la solution pour faire tout synchrone. Enfin bon, donc plus de métastabilité. Rendez-vous en mars au Collège de France. On va en parler. Voilà. Donc, alors le coût du développement. Vous imaginez que c'est des développements énormes. Et je vais vous montrer là un microprocesseur. Le Pentium, il fait 55 millions de transistors. Le processeur lui-même. Hein, pour un cœur hein, de Pentium. Eh bien, donc, puisque maintenant il faut parler en cœur. Donc, un cœur Pentium, 55 millions de transistors. Quand vous dessinez à la main, en moyenne, vous faites un transistor par heure. C'est-à-dire, vous dessinez, ça va beaucoup plus vite que ça, mais après, il faut tenir compte de la part de vérification, de la part de ci, de la part de traitement, et tout ça, parce que les vérifications sont énormes. Hein. Et donc, 55 millions d'heures, on ne peut pas dégager ça pour faire un circuit. Et vous voyez le travail. C'est pour ça qu'il faut... On ne peut pas faire autrement que d'automatiser le dessin. Voilà. Et il faut également amortir tout ça. Parce que la fabrication d'un circuit intégré, ça coûte pas cher. Seulement, c'est tout l'amortissement de la conception et la préparation des prochaines étapes. C'est-à-dire qu'il faut que vous achetiez de nouveaux équipements pour les produire parce que la technologie évolue en permanence. Ah, coût énorme des reprises. Donc, c'est pour ça, maintenant, on dessine un circuit, ça doit marcher du premier coup. Donc, on préfère dépenser des temps énormes de calcul. Moi, je me souviens, chez Bull, ils dépensaient des mois de calcul, mais ils étaient capables de booter l'operating system sur le modèle du circuit. Donc, Bull était très avancé du point de vue CAO, avant qu'ils se rangent à acheter des outils classiques. Mais à l'époque, il y avait des outils très avancés qui étaient capables de remonter la fonctionnalité, en gros, d'écrire un langage de conception à partir d'un masque. Hein. On était capable de remonter ça, capable de simuler, donc après l'avoir remonté, ils simulaient le boot de l'operating system sur le circuit. Ça mettait un mois s'il le faut, mais un mois de calcul, c'est rien par rapport au coût de reprise, de remodifier le circuit, de le refaire cuire et d'attendre surtout. Bon du premier coup. Hein. Et maintenant, les outils permettent d'avoir des circuits bons du premier coup. Voilà, par exemple, le processeur Pentium, à l'époque où il était encore monoboîtier. Vous voyez, c'était une technologie, il a vécu entre 130 et 65 nanos, donc 0,13 microns, 55 millions de transistors, 3,4 gigas, je vais expliquer pourquoi il n'est pas monté plus haut, 4,9 gips, donc milliards d'instructions par seconde. C'est certainement une des machines les plus avancées qui soit. Et cette machine-là, il était impossible de la fabriquer avec des armoires dans une pièce. Ça aurait été trop gros. Trop gros. C'est plus complexe que les plus complexes des ordinateurs qui étaient dans des centres de calcul à l'époque. Bien plus complexe. Vous expliquer tout ce qu'il y a là-dedans, c'est pas simple. Je pourrais le faire un jour de vous parler de la structure interne de ces machines. Donc ça décrit un peu le truc. On exécute jusqu'à 40 instructions à la fois. C'est quand même pas mal. Tout ça en vous faisant croire qu'elles sont exécutées les unes derrière les autres. Ça, c'est, vous voyez, des circuits qui sont faits. C'est des chips de chez Bull. On aperçoit les petites cellules interconnectées, les trucs. Non, c'est ça, les cellules interconnectées. Donc ça donne cette impression, le circuit conçu automatiquement. Alors ça, c'était une courbe sur des vieux trucs, hein, une courbe qui montrait la décroissance du prix avec le temps d'un circuit intégré. Vous aviez des différences qui pouvaient, entre le prix d'introduction et le prix plat plancher à la fin, ça pouvait descendre, le prix pouvait être divisé par 10. C'est assez surprenant ce truc. Les constructeurs ont cherché à lutter contre ça parce que ça ne les intéressait pas. Donc ils arrêtent maintenant avant. Parce qu'à un instant donné, il y a toujours une échelle de valeur entre le plus vieux et les autres. Et les plus récents. Plus c'est récent, plus ça coûte cher parce qu'on est plus haut dans la courbe. Mais le plus cher, il va finir par coûter le même prix, quoi. Donc je me souviens des gens qui fabriquaient des montages à base de microprocesseurs, qu'achetaient des microprocesseurs le mieux possible, et alors qu'ils faisaient une carte magnifique avec de l'or, des machins bien, enfin pas pour faire joli, pour que ça se conduise mieux, enfin vraiment bien, et parce qu'ils avaient payé cher les microprocesseurs. Et alors, le problème, c'est quand le même micro ne coûtait plus rien, la carte, elle continuait à coûter le fer. Et donc, alors que tous les autres avaient baissé leur prix, et ben, eux, ils ne pouvaient pas parce qu'ils avaient une carte qui était trop chère. Hein? Parce qu'ils n'avaient pas prévu. Les lois de la microélectronique ont été très, très dures à apprendre par les électroniciens. Et ça, ça a été dans les années 90, hein, surtout. Ça a été vraiment il y en a qui en ont pris plein la figure, si j'ose m'exprimer ainsi. Voilà. Là, vous voyez, le multicœur. Bah, qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire le multicœur? C'est AMD. Ils ont pris deux micros, ils les ont mis côte à côte, c'est tout. Hein. Au même titre, j'ai pas trouvé là des multicœurs, mais ça existe. Des photos de multicœurs de Pentium, c'est pareil. Le cœur des machines modernes sont des Pentium qu'on aurait pu trouver. Alors ils améliorent un peu à chaque fois, mais ils se contentent. Alors plus ils peuvent faire des circuits gros sans risque de rendement ni de chaleur, plus ils en mettent, ils finiront par mettre 8 processeurs. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Un octoprocesseur, il faut que vous ayez des logiciels qui acceptent d'avoir un degré de parallélisme de 8. Si vous avez votre vieux logiciel qui travaille pas comme ça, il ne tournera qu'avec un seul cœur. Moi, j'ai vu des gens à Polytechnique, des physiciens qui avaient des logiciels très puissants. Ils disaient, mais on achète des ordinateurs modernes et puis ça ne tourne pas plus vite. Évidemment, ça ne tourne que sur un cœur. Parce que le fait de paralléliser le logiciel est un travail énorme. Alors évidemment, dans un système centralisé, vous n'avez pas ce problème parce que si vous avez plein d'utilisateurs, par exemple, autour d'une base de données unique, eh bien, ces utilisateurs vont créer un parallélisme naturel. Tandis que si vous avez un programme qui doit tourner à fond la caisse pour faire, par exemple, une simulation physique, ben lui, s'il n'a pas été écrit pour être parallélisé, il va pas tourner en parallèle et il va vous consommer, il va tourner à la vitesse de son cœur. Et c'est ce qu'ils avaient. Alors je leur conseillais d'acheter des vieux, des vieux Pentium, parce qu'on trouvait des vieux Pentium à 3,2 gigas, et les cœurs à l'époque, ils faisaient 2,8 gigas. Donc ça tournerait plus vite sur une machine qui avait 10 ans d'âge, quoi. Ou peut-être pas 10 ans, mais au moins 5 ans.
Hein?
Oui, mais bon. Ah, c'est pas. Oui, mais c'est pas évident, hein, parce que le truc, le processeur, tout seul, il parallélise lui, bien déjà, au maximum. Alors, bon. Oh, ça améliore quand même un peu, parce que vous, plutôt qu'avoir deux processeurs séparés, ben vous les avez dans le même circuit, donc ils peuvent communiquer un peu plus rapidement. Mais en général, ils communiquent pas tellement entre eux. Vous voyez, ça, c'est un super ordinateur monolithique qui a été fait par IBM, Toshiba, Sony, et en fait qui a été utilisé que par Sony pour vendre, pour mettre dans le sel, qui était dans le PS3. Et puis ils l'ont arrêté, et il y avait, je crois qu'IBM l'a utilisé aussi et a arrêté depuis. Il y avait un Power, donc qui était le processeur. Du genre de ceux qu'il y avait dans les Mac, et puis des processeurs esclaves. Donc il y avait 8 processeurs esclaves tout autour. C'était en 90 nanos, mais on n'a jamais eu la vitesse d'horloge. Ils n'ont jamais voulu donner la vitesse d'horloge, même quand on leur demandait explicitement dans des confs. Voilà, système on-chip. Donc en fait, c'est des circuits, une des façons de faire des grands circuits système, c'est de dire, bien, je vais assembler, comme quand vous faites un système informatique, vous assemblez des machines que vous achetez chez Duchemol, des baies de périphériques que vous achetez chez Duchtruc, et ainsi de suite. Et bien là, c'est pareil. On trouve dans le commerce des blocs préconçus, qu'on appelle IP, pour Intellectual Property, on ne voit pas pourquoi ça s'appelle ça comme ça, mais enfin, ça ne fait rien, et qui font des fonctions. Par exemple, vous achetez une boîte d'interface USB. Pof. Alors, par rapport à un certain bus, vous allez brancher ça sur le bus et vous allez pouvoir mettre un USB. Vous achetez un module GPS qui va se brancher sur le capteur GPS d'un côté et sur le bus de l'autre côté, et ainsi de suite. Et tout ça est vendu, et donc vous achetez des processeurs. ARM, par exemple, vend des processeurs, mais il n'y a pas qu'ARM, hein, pour faire ce genre de choses. Et puis vous les assemblez, vous pouvez même trouver l'outil qui vous dessine les bus, hein, et vous achetez des mémoires, et vous assemblez tout ça. Alors, ce qui est bien, c'est quand vous achetez un objet comme ça, vous achetez un rectangle blanc avec des pattes, on vous dit les pattes, le rectangle est blanc, et c'est au moment, le fondeur, lui, qui a le dessin qui va dedans. Voilà, vous ne voyez pas, vous ne l'avez pas chez vous pour pouvoir le décortiquer, évidemment. Voilà. Et donc, on fabrique des composants système comme ça. Ça a été très fabriqué pour les smartphones, par exemple. Et ça va même plus loin. C'est-à-dire, le ST a beaucoup joué de cette carte-là. Et c'est son grand truc, ça. Et donc, ST, ce qu'ils faisaient, ils avaient travaillé avec Nokia pour les téléphones portables. Et alors, ils avaient défini avec Nokia qu'est-ce qu'il fallait mettre dans un téléphone portable. Ils avaient appris un peu de Nokia, eux aussi par eux-mêmes, ce qu'il fallait mettre dans le téléphone portable. Et puis, Nokia leur a peut-être demandé de faire un circuit pour tel téléphone portable, puis un autre pour tel autre téléphone portable. Ils se sont rendus compte qu'à peu de choses près, c'était le même. Donc, ils ont fait un circuit qui a les deux fonctionnalités. Et puis, ils se sont dit, on va mettre un système de verrou. Et quand Nokia nous demandera ce circuit-là, ben on permettra la fonctionnalité de ce système-là et pas celui-là. Et puis l'autre, ben pareil, et puis Nokia devait être parfaitement au courant. Et donc, il y avait le système de choix. Hein. Et ils se sont dit, ben je vais faire ça maintenant, non pas que pour un fabricant, mais pour tous les fabricants qui vont me demander. Donc on fait une plateforme, et puis on peut paramétrer, qui contient à peu près tout ce qu'on peut espérer, et on va mettre en service les modules qui sont utiles par un système bien caché de mise en service, généralement qui est fait au moment du test. Hein. Et donc, Alors ça avait l'intérêt de ne pas développer plusieurs circuits, donc pas, parce qu'on risque souvent d'avoir des problèmes de mise au point sur ces circuits géants. Quelque part dans un coin, il y a deux fils qui sont un peu trop près, bien que ça reste dans les règles technologiques permises, ben, c'est un peu, ça se parasite et ça marche plus. Hein. Donc, développer des plateformes standards, comme ça, ce qui leur permet d'après, de tout paramétrer par logiciel. On met les modules logiciels adéquats, et ça, le logiciel, alors, c'est le client qui le fait. Et généralement, quand il achète les modules AIP, il a le bout de logiciel qui va avec. Donc, création comme ça, les tablettes, les smartphones. C'est pour ça que des fois, vous trouvez pléthore de modèles qui, en fait, ont le même circuit à l'intérieur, parce que c'est fait comme ça. Alors, il y a une grosse bagarre entre les fabricants à qui vendra le plus sa plateforme. Mais c'est une manière de résoudre, de diminuer le nombre de conceptions. Le nombre de conceptions et donc de tests de mise au point. Voilà, ça, je voulais vous montrer ça. C'est le processeur Bull Auriga 2. Processeur Auriga 2, donc c'est fait par Bull. Ça a été fait, vous savez, dans un coin de la Silicon Valley qui s'appelle les Clayes-sous-Bois. Hein? Eh bien, à l'époque, il était aussi gros que le Pentium de base, 4,7 millions de transistors. En 93, en CMOS 0,5, on n'avait pas à rougir. C'est dommage que ça continue plus, quoi. On aurait pu faire un super peinture, on aurait pu faire un super Auriga qui tourne comme sur le principe du Pentium. Hein. Ce principe, il est transposable. Voilà. Et vous voyez là-dedans des zones qui sont conçues automatiquement avec les petites bandes dont je vais parler seulement. Elles sont tellement fines que ça apparaît comme des petits poils. C'est des zones, ça c'est le cache. Et puis ça, c'est des espèces de sous-processeurs dont le processeur de Floating Point qui a été fait par Grener, hein, Alain Grener. Et ça, je ne sais plus, je crois que c'est le processeur entier. Puis, tous les autres. Vous voyez. Donc, on avait de quoi, hein, mais ça n'a pas été plus loin, quoi, dommage. Processeur Auriga 2. Maintenant, vous savez, quand vous achetez un DPS7, eh bien, c'est un logiciel qui tourne sur un PC, hein, c'est pas autre chose. Bon. Mais là, on aurait pu faire quelque chose de meilleur. Bon, ça après. Bon, donc, j'ai fini. Hein. J'avais déjà présenté ça la dernière fois. Voilà, j'ai fait mon petit truc. Donc, si vous avez des questions, je ne sais même pas quelle heure il est. Voilà, alors, c'est un peu rapide, oui.
Avec ces couches, comment se fait-il que les photos donnent toutes sortes de couleurs différentes? Il semble que la couche supérieure, ça devrait être assez homogène en couleurs.
Les couleurs différentes. Alors, ça vient de deux choses. Certes, ces photos-là sont faites soit par des universitaires, généralement des universitaires. Ils trouvent plus marrant de mettre des projecteurs de couleurs dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la photo. Et vous avez vu, par exemple, l'Auriga, il a été photographié de manière professionnelle, il est à peu près uniforme. Donc, eux, ils mettent des couleurs pour faire des effets, comme ça, bon. D'un autre part, vous avez des couleurs d'interférence qui sont dues à la profondeur de l'oxyde, en particulier, donc qui forment des filtres optiques pour peu qu'on soit dans des dimensions des longueurs d'onde optiques. Et c'est à peu près ça, hein. Ah oui, comme les ailes de papillon, oui, mais si ce n'est que c'est comme ça, par exemple, dans le temps qu'on mesurait l'épaisseur de l'oxyde mince, en regardant la couleur, le filtre, on mettait une lampe de la bonne teinte, et quand on voyait l'oxyde qui avait telle couleur, on arrêtait le processus. Hein? Donc, voilà, les couleurs des puces, oui. Oui, alors. Il y a eu un tas de trucs. Le problème du 3D, c'est comment vous allez refroidir le machin qui est dans le milieu. Hein? Or, le problème là, c'est que vous avez vu, même en utilisant du CMOS, eh bien, du CMOS tout petit, on met tellement de transistors, eh bien, que ça finit toujours par chauffer. Parce que les transistors, ils transportent, la porte CMOS, elle transporte une charge de l'alimentation dans la capa parasite de ce qui suit. Puis après, elle la reprend et la met dans la masse. Hein? Et puis ainsi de suite, comme ça. Hein? Ça, c'est je mets à 1, ça, c'est je remets à 0. Hein. Et une porte CMOS, obligatoirement, elle passe par des 1 et des 0. Donc, ça fait un courant moyen, hein, qui, multiplié par des milliards de transistors, finit par faire des ampères. Hein. Il rentre et il sort des ampères sur ces circuits-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pins de masse tout autour. Parce qu'il faut arriver à le passer, le machin. Hein. Donc, ça fait des courants très importants. Parce que pour un circuit dont le courant moyen est en picoampères, parler d'ampères, vous voyez un peu, hein. C'est sur votre circuit imprimé, ça serait des 1000 ampères. Hein. Donc, ça fait beaucoup quand même. Hein.
Donc, il y a une limite physique. Je ne sais plus où j'avais vu ça. Supposons qu'on fasse un ordinateur où, en fait, la fonction est assurée par un seul électron tout seul.
Oui.
Rien que l'énergie pour déplacer un électron.
Ouais.
Si ce n'est pas frappé log de 2 ou un
oui, oui.
Voilà.
Ouais.
Cette énergie, c'est la plus petite qu'on puisse faire. Après, il faudrait couper l'électron.
Tout dépend de d'où vous le déplacez, de combien vous le déplacez, ainsi de suite.
Autrefois, l'affaire d'arrivée alpha, tous les éléments sont émetteurs alpha.
Oui, oui, mais
limite oui, oui. À l'énergie d'un bit, l'énergie d'arrivée alpha.
Oui, mais non, là, le problème, c'est que à ces fréquences-là, les électrons, ils bougent plus. Hein. C'est plutôt des vibrations d'électrons. On arrive à des vibrations d'électrons, donc c'est assez. On est en train de regarder justement pour des histoires de terahertz. Je peux vous dire que ça change les choses. Mais quand on va arriver au terahertz, on va balader de l'infrarouge hein, là-dedans. Mais sous forme de courant électrique. Et c'est effrayant quand vous dites aux gens ce qui va passer dans les fils de votre microprocesseur, c'est de l'infrarouge.